réflexion sur le thème de la maison. Je vais poursuivre avec une histoire qu'on peut considérer un peu comme une parabole. Donc on poursuit avec ce thème des images dans la Bible. On raconte l'histoire d'un patron d'une grande entreprise qui cherchait un successeur. Son entreprise était en pleine croissance, il allait bientôt prendre sa retraite. Il cherchait un homme ou une femme de confiance pour le remplacer, quelqu'un qui posséderait les mêmes valeurs que lui. Même s'il était très riche, puissant dans le monde du commerce, il tenait à avoir une bonne éthique, à être honnête, à bien traiter ses employés. Il n'aimait pas les magouilles, les pots de vin, etc. Et il paraît que ce genre de personne est de plus en plus rare dans le milieu des affaires. C'est pour cela qu'il voulait choisir lui-même son successeur. Après plusieurs sélections de candidats et plusieurs entretiens d'embauche, trois personnes ont retenu son attention. Et la dernière étape de l'embauche consistait à s'entretenir lui-même avec les trois candidats en même temps. Parmi eux, il y avait une jeune femme de tout juste 23 ans. À son âge, elle avait déjà plusieurs diplômes de commerce, de management, de marketing. Le deuxième candidat était un homme plus âgé, 39 ans. Il n'avait pas autant de diplômes que la jeune femme, mais il avait beaucoup d'expérience. Et le troisième candidat était un jeune de 18 ans, tout juste sorti d'un lycée professionnel, sans expérience, sans autre diplôme, avec un parcours scolaire classique. Il n'était pas plus doué que les autres jeunes de son âge. Il avait postulé à cette offre d'emploi parce que, justement, cette offre ne précisait rien sur les compétences à avoir. L'annonce annonçait juste cela. Cherche homme ou femme de confiance pour travailler dans la direction d'une entreprise de commerce. Point. Donc en tombant sur cette annonce, il a été étonné de ne voir aucune exigence spécifique. Il s'est dit, pourquoi ne pas tenter ? Pour une fois que rien n'est exigé au niveau des diplômes, de l'expérience. Le jour de l'entretien final arriva. Les trois candidats étaient stressés. Le cours de leur vie professionnelle allait peut-être changer complètement grâce à ce poste. Être le patron d'une grande entreprise en croissance, c'est quand même une belle opportunité de carrière. Pendant l'entretien, le patron leur posa une seule question. Et cette question leur a certainement déjà été posée lors des entretiens précédents, mais voilà. Il voulait lui-même entendre la réponse. Il posa une seule question. Pourquoi pensez-vous être fait pour ce poste ? La première candidate répondit. Je possède 5 diplômes prestigieux. J'ai fait mes études dans les plus grandes écoles de commerce du monde. Je parle 12 langues, dont l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'arabe, le chinois, etc. J'ai toutes les compétences requises pour diriger votre entreprise et pour la développer davantage. En entendant cela, les deux autres candidats furent très impressionnés et encore plus inquiets pour leur candidature. C'était maintenant au tour du deuxième candidat de répondre. Je suis diplômé de 2 grandes écoles de commerce, dit-il. J'ai enseigné le marketing à Londres. J'ai une grande expérience dans le milieu. J'ai eu des postes à responsabilité. J'ai aidé de grandes entreprises à se développer. Je connais bien le métier et même les méthodes de vos concurrents, ce qui est un atout non négligeable. Vint maintenant le tour du troisième candidat. Pouvez-vous répéter la question ? Redemanda-t-il. Alors rien qu'avec cette question, les deux autres ont pensé que c'en était fini pour lui. Il n'était même pas capable de retenir une question simple. Mais le patron ne l'avait pas disqualifié pour autant. Il a répété la question. Pourquoi pensez-vous être fait pour ce poste ? Le jeune homme a pris encore quelques instants pour réfléchir, puis il répondit : Je suis un peu gêné par votre question, par la formulation de votre question. Quoi que je réponde, votre question présuppose que j'estime être fait pour ce travail, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si je suis fait pour ce poste. J'ai postulé car j'ai vu qu'aucune compétence particulière n'était exigée, mais je suis prêt à apprendre. Ensuite, c'est vous qui déciderez si vous me voulez à ce poste. À l'issue de cet entretien, c'est ce dernier candidat que le patron a choisi, le jeune sans diplôme, sans expérience. Et ce choix a surpris tous les autres employés, tous les collaborateurs. Tout le monde lui a demandé pourquoi avoir pris ce jeune garçon sans diplôme, sans expérience. A-t-il perdu la raison ? Le patron leur a répondu. Les deux premiers candidats croyaient déjà tout savoir. Et quand on connaît déjà tout, on est moins disposé à apprendre. Puis il a ajouté, ce que je recherche, ce ne sont pas les bonnes compétences, c'est la bonne attitude. Le plus important, ce ne sont pas les compétences, c'est l'attitude qu'il recherchait. Cette manière de choisir un candidat va totalement à l'encontre de ce que tout le monde aurait pu penser. De nos jours, les employeurs regardent surtout les compétences et même surtout les diplômes. D'après ce que j'ai constaté, entendu, en France, on a beau avoir les compétences, si l'on n'a pas le diplôme, on aura moins de chances d'être embauché. Cependant, contre toute attente, le patron de cette histoire qui peut être considérée comme une parabole, ce patron regardait d'abord l'attitude, il regardait d'abord l'état d'esprit. Alors vous pensez sûrement que c'est une belle histoire, mais qu'elle n'est pas prête d'arriver dans la vie réelle. Peut-être les jeunes qui ne sont pas encore dans le monde du travail rêvent peut-être d'un entretien de ce type et d'être pris un peu comme ça. Voilà, vous pensez peut-être que c'est juste une belle histoire imaginaire. Mais en réalité, il y a bien un patron qui se comporte ainsi. Il existe un chef qui ne fait pas le chef. En fait, cette parabole illustre exactement la manière dont Dieu se comporte avec nous, en tout cas la manière dont Dieu nous considère. Voici ce que Jésus a dit quand on lui a présenté des enfants. Laissez les petits venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 14. Et si on veut faire un lien avec le thème de Nicolas, qui nous a présenté ce matin, on pourrait lire, car la maison de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Cette parole de Jésus est surprenante. Le royaume des cieux, autrement dit, la maison qui nous attend au ciel, le paradis, est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Essayez de poser la question suivante dans la rue. Si le paradis existait, est-ce que vous y entrerez ? Beaucoup de gens, à mon avis, répondront oui. Et si on leur demandait pourquoi, ils répondraient probablement parce que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. J'ai fait ce que j'ai pu pour faire le bien autour de moi. J'ai vécu de manière honnête. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. J'ai aimé mes proches. Beaucoup de gens pourraient donner ce genre de réponse. Mais combien de personnes auraient l'idée de répondre « Oui, moi j'irai au paradis parce que je ressemble à un enfant. » Pas grand monde, il me semble, aurait cette idée. Tout comme le patron de notre histoire, Dieu voit les choses d'une toute autre manière. Pour entrer dans son royaume, ce qui compte, ce ne sont pas les diplômes ou les bonnes actions, ce ne sont pas les mérites. Juste après que Jésus ait parlé des enfants, un homme s'est approché de lui en demandant « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et voici le début de la réponse de Jésus. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. J'ai déjà rencontré des gens qui réagissent fortement à cette affirmation. Des gens qui ont du mal à croire que Dieu est bon, à cause de toutes les souffrances qu'il y a sur terre. Et je reconnais que pour moi, pour moi-même, la question de la souffrance me tracasse parfois. Mais je continue de croire que Dieu est bon, qu'il a un plan et que beaucoup de choses me dépassent. Je ne vais pas entrer aujourd'hui dans ce débat concernant Dieu et la souffrance, qui peut faire l'objet d'une réflexion à part entière, mais j'aimerais juste relever une question que parfois je me suis posée aussi lorsque j'entends ce genre de débat. Si l'on ne devait pas croire en Dieu à cause des souffrances de ce monde, est-ce qu'il faudrait croire en l'homme? Est-ce que l'être humain est vraiment capable de rendre le monde meilleur? Alors personnellement, je suis persuadé que Dieu est capable d'aider l'homme à rendre la terre meilleure. Mais malheureusement, lorsque je regarde autour de moi, je constate que l'humanité, la plupart du temps, préfère se débrouiller sans Dieu. Selon Jésus, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. En fait, quand Jésus parle de bonté, il ne parle pas de la bonté que nous connaissons. Voilà, donner de l'argent pour faire du bien autour de nous. Ce n'est pas de cette bonté-là qu'il parle. Il s'agit d'être comme Dieu, bon comme Dieu. Et c'est pour cela que si l'on compte sur notre propre bonté, la bonté humaine pour aller au ciel, alors cela ne marchera pas, parce que l'on ne peut pas être bon comme Dieu est bon. Dieu nous demande de faire de belles œuvres, mais ce ne sont pas elles qui vont nous permettre d'aller au ciel, parce que nous ne pouvons pas être bons comme lui, aussi bon que lui. Pour entrer dans le royaume des cieux, Dieu nous demande de ressembler à des enfants. Mais que veut-il dire exactement? Que veut dire ressembler à un enfant? Est-ce que cela voudrait dire qu'il faut avoir l'innocence d'un enfant? Je ne pense pas, parce qu'en fait, les enfants ne sont pas innocents que ça. En tout cas, pas toujours. Il suffit de faire un sondage auprès des parents de jeunes enfants pour se rendre compte que dès les premières années, malheureusement, et cela nous attriste, les enfants peuvent mentir, tricher, se moquer des autres, être jaloux, etc. J'ai personnellement travaillé en milieu scolaire et j'ai pu voir malheureusement ce genre de choses, et même en tant que parent. Jésus voulait-il dire alors qu'il faudrait être naïf comme des enfants? Et c'est vrai que les jeunes enfants croient ce qu'on leur raconte. Par exemple, si on leur raconte les histoires du Père Noël et de la petite souris, eh bien ils y croient. Mais dans la Bible, Dieu ne nous demande pas d'être naïf pour croire en lui. Il ne faut pas déconnecter notre intelligence pour avoir la foi. Dans beaucoup de versets, le croyant est invité à étudier les Écritures, à faire preuve d'intelligence, à rechercher la sagesse. Lorsque l'apôtre Paul prêche la bonne nouvelle, il utilise souvent les notions de démonstration, de raisonnement. Dieu ne nous demande pas d'être naïfs. Ceux qui ont la foi ne sont pas naïfs. Quelle est donc l'attitude que Jésus aime chez les enfants? Nous avons la réponse juste au chapitre précédent où Jésus parle aussi des enfants. Voici ce que l'on peut lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 4. Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Là encore, Jésus répond l'inverse de ce que l'on aurait pu penser. Qui est le plus grand ? C'est le plus petit, dit Jésus. L'attitude que Dieu regarde avant tout, ici, c'est l'humilité. Alors vous allez me dire qu'un enfant n'est pas toujours humble. Parfois, les enfants peuvent dire des phrases du type « C'est moi le plus fort », et ça je l'entends chez moi. « C'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, c'est moi qui cours le plus vite. » Et oui, c'est ce qui arrive quand les parents laissent gagner leurs enfants. « C'est moi qui cours le plus vite, c'est moi qui dessine le mieux, etc. » Mais l'humilité dont il est question ici, c'est de reconnaître que l'on est petit et que l'on est dépendant. La dépendance n'est pas très à la mode aujourd'hui. C'est même un mot qui a une connotation négative. La dépendance fait penser aux addictions et ce n'est pas attirant d'être dépendant. Ce qui est à la mode, c'est plutôt l'indépendance. L'être humain veut se débrouiller seul. C'est une question de fierté et malheureusement parfois une question d'orgueil. Je trouve cela triste. Car à force de penser que l'indépendance est une bonne chose, le jour où une personne se rend compte qu'elle a besoin des autres, à cause d'un problème de santé, à cause de l'âge, eh bien cette personne souvent se considère comme un poids pour la société, un poids pour ses proches, un poids tout court. Et la société finit par penser que ceux qui ont trop de besoins sont des fardeaux. Lorsque les gens perdent leur illusion d'indépendance, ils ont l'impression de perdre leur honneur, leur dignité. Mais la dignité vient-elle de l'indépendance ? En tout cas de l'illusion d'indépendance, parce que finalement on a tous besoin les uns des autres. La dignité vient-elle de notre autosuffisance ? Selon la Bible, notre dignité vient de l'amour que Dieu a pour nous. Et puisque Dieu nous aime, nous sommes appelés à aimer notre prochain, qu'il soit autonome ou qu'il ait besoin de nous. Notre prochain ne devrait pas être considéré comme un poids dès lors qu'il a besoin de notre aide. Nous avons tous besoin les uns des autres, nous sommes tous interdépendants. Du point de vue de Dieu, la dignité ne dépend pas de notre autonomie, de nos capacités ou de nos diplômes. Les enfants savent qu'ils sont des enfants et non pas de grandes personnes. Les petits-enfants savent qu'ils ont besoin de leurs parents. Il est vrai qu'ils apprennent l'autonomie, mais ils ne recherchent pas à tout prix l'indépendance. Le désir d'indépendance vient un peu plus tard, vers l'adolescence ou la préadolescence. Il paraît que c'est de plus en plus tôt. Dans tous les cas, l'humilité dans notre texte consiste à reconnaître notre besoin de Dieu, de quelqu'un de plus grand que soi, quelqu'un qui pourvoit à ses besoins et sans qui nous ne sommes rien. Sur ces points-là, sommes-nous prêts à ressembler à des enfants ? Supportons-nous l'idée qu'il y a un Dieu plus grand que nous, un Dieu qui veut avoir un regard sur notre vie ? Acceptons-nous de croire en un Dieu qui nous dépasse et qui nous demande de lui faire confiance, même si ce que nous voyons sur terre peut nous donner à douter ? Acceptons-nous de croire en ce Dieu qui nous demande d'avoir confiance en lui ? Ce genre de texte où Jésus parle du royaume des cieux a été d'autant plus parlant pour moi cette semaine. Une semaine où, dans notre temple, nous avons célébré un culte d'action de grâce suite au décès de Daniel Lescout. Une semaine où nous avons appris le décès de Jean-Luc Doublier, le papa de Charles-Édouard, puis le décès de Jacques Tuffet, et encore le décès de Frédéric Tourne. Je n'ai pas connu grandement ces personnes, voire même pas pu avoir l'occasion de les côtoyer, mais nous sommes attristés, car des frères et sœurs sont touchés par le deuil. Mais la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Jésus nous invite à entrer dès aujourd'hui dans le royaume des cieux par la foi d'un enfant. Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je conclus en revenant sur l'histoire du patron et du jeune candidat. Sommes-nous prêts à dire, comme le jeune homme, mes compétences ne sont pas à la hauteur, mais je suis prêt à écouter le maître, à suivre le maître et à apprendre à ses côtés. C'est cette attitude que Dieu attend de nous. C'est de cette humilité dont Jésus parle quand il dit « Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants ». Dieu est le patron, mais un patron qui n'est pas dans la logique du mérite ou des diplômes. Il regarde d'abord notre cœur. Adoptons la bonne attitude, faisons preuve d'humilité, que ce soit envers lui ou envers notre prochain. Sachons reconnaître notre besoin de Dieu comme des enfants. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci, parce que ce que nous connaissons sur terre, ce n'est pas tout ce que nous avons à vivre. Tu nous promets la vie éternelle, tu nous promets d'être dans la maison du Père, comme nous l'avons chanté, tu nous promets ce royaume des cieux, la mort n'est pas la fin, le plus beau est à venir. Merci pour cette grâce que tu nous fais, de nous inviter dans ton royaume. C'est une grâce parce que nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas grâce à des mérites, à des diplômes, à des compétences que nous pouvons entrer dans ton royaume. Mais tu nous demandes d'être comme des enfants. Et ce n'est pas évident. Aide-nous à avoir cette humilité que tu demandes. Aide-nous à nous reconnaître petits devant toi. Et merci parce que lorsque nous nous reconnaissons comme étant des petits, des enfants, c'est là que tu nous élèves et que tu nous fais asseoir à tes côtés dans ton royaume. Donne-nous cette humilité devant toi, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres. Et que cette humilité puisse être un témoignage, qu'elle puisse toucher ceux qui nous entourent. Merci parce que nous pouvons compter sur toi aussi, nous pouvons compter sur ton esprit aussi, pour nous aider à être humbles. Au nom de Jésus. Amen.